le commandant de la marine iranienne est en visite au Pakistan pour renforcer la coopération militaire. Deux Palestiniens ont été tués par les militaires israéliens à Jenin et à Bethléem en Cisjordanie. Et au Tchad, des militaires français ont été désarmés et humiliés. Une nouvelle mésaventure qui a suscité des inquiétudes quant à la coopération militaire française en Afrique. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani, est au Pakistan pour discuter des moyens de donner de l'essor à la coopération bilatérale dans divers domaines militaires. Le contre-amiral Irani s'est rendu au quartier général de la marine à Islamabad et a été accueilli par le chef d'état-major de la marine pakistanaise, l'amiral Mohammad Amjad Khan Niazi, et a passé en revue la garde d'honneur. Les deux hommes ont également échangé des vues sur les collaborations régionales et la sécurité maritime dans la région. L'amiral Niazi a informé le contre-amiral Irani et sa délégation sur les activités professionnelles des forces navales pakistanaises pour maintenir la sécurité maritime et renforcer la coopération bilatérale et multilatérale. Selon la marine pakistanaise, la présence du contre-amiral Irani à Islamabad était une étape importante pour renforcer la coopération entre les forces navales des deux pays. Par ailleurs, lors d'une réunion entre le contre-amiral Shahram Irani et le maréchal en chef de l'air pakistanais Zahir Ahmad Babar Sidhu, les deux commandants militaires ont souligné l'importance d'améliorer la coopération militaire, éducative et aérienne. La rencontre entre Irani et Babar Sidhu témoigne de l'amitié profondément enracinée et de l'engagement indéfectible des deux nations à œuvrer pour une région pacifique et stable, annonce l'armée de l'air pakistanaise dans un communiqué. Le maréchal pakistanais a souligné que les progrès dans l'espace, la guerre électronique, les technologies cybernétiques et spécialisées combinées à l'intelligence artificielle ont profondément affecté l'environnement traditionnel de la sécurité nationale. Il a en outre fourni au commandant de la marine iranienne diverses informations sur les différents projets menés par l'armée de l'air pakistanaise, avec un accent particulier sur la modernisation et le développement des capacités intérieures. Téhéran et Islamabad entretiennent des liens religieux, culturels et historiques de longue date, et les liens solides entre les deux voisins s'en témoignent, a déclaré le commandant de l'air pakistanais. Le commandant de la marine iranienne a quant à lui salué le professionnalisme du personnel de l'armée de l'air pakistanaise et les progrès exceptionnels réalisés par les forces aériennes pakistanaises PAF sur la voie de la modernisation, souligne l'armée de l'air pakistanaise. Le contre-amiral Irani a également apprécié les efforts continus du Pakistan dans le sens de la stabilité régionale, insistant sur l'importance que représente l'amélioration des relations entre les militaires des deux pays, en particulier dans les domaines des opérations militaires, de la formation et de l'industrie aéronautique. Le chef du Conseil stratégique des relations étrangères de la République islamique, Kamal Kharazi, a affirmé que Téhéran soutenait la sécurité et la stabilité en Irak. Lors d'une réunion avec le président irakien Abdulatif Rachid, lundi 19 juin à Bagdad, le chef du Conseil stratégique des relations étrangères de la République islamique a salué la contribution du président irakien au développement des relations entre Téhéran et Bagdad, ajoutant que les deux parties étaient déterminées à élargir leurs liens. Faisant allusion à l'emplacement de l'Irak comme une porte reliant l'Iran aux pays arabes, Kharazi a tenu à apprécier les grands efforts déployés par Bagdad afin de favoriser le rapprochement entre Téhéran et Riyad. L'Irak a accueilli plusieurs rondes de négociations entre l'Iran et l'Arabie saoudite ces deux dernières années. Téhéran et Riyad ont conclu un accord de réconciliation et ont finalement rétabli les liens en mars après plusieurs jours de négociations intensives organisées par Pékin. Pour sa part, le président irakien a souligné l'importance de renforcer les liens de son pays avec l'Iran. Il a évoqué l'importance de réussir les projets de développement dans des villes et provinces irakiennes à la lumière d'une stabilité et d'une sécurité accrue. Il a ajouté que les affinités sociales, géographiques, historiques et religieuses, ainsi que les intérêts économiques communs, relient les deux pays voisins. À la tête d'une délégation de haut rang, le président irakien s'est rendu fin avril à Téhéran en réponse à une invitation officielle de son homologue iranien, Ebrahim Raisi. Lors d'une rencontre avec le secrétaire général du mouvement du djihad islamique de la Palestine, Ziad al-Nakhala, Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré dimanche 18 juin qu'Israël cherchait à normaliser ses relations avec les gouvernements arabes et musulmans pour contrecarrer l'espoir des Palestiniens de libérer leurs terres. Ebrahim Raisi a réaffirmé que cette ambition du régime sioniste ne mènerait nulle part, car les habitants de ces pays étaient les premiers et les plus sérieux opposants à de telles normalisations. Saluant les groupes de résistance palestiniens pour leurs initiatives dans la bataille contre les sionistes, le président iranien a déclaré que la nation palestinienne était devenue plus unie que jamais alors que la communauté sioniste a été déchirée. Le secrétaire général du mouvement du djihad islamique de la Palestine a remercié la République islamique pour son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Considérant l'Iran comme un pays influent dans les développements régionaux et internationaux, le secrétaire général du djihad islamique de la Palestine a qualifié la récente tournée du président iranien en Amérique latine d'un témoignage du succès de la République islamique à faire échouer les sanctions. Un Palestinien succombé ce mardi 20 juin à ses blessures subies hier lundi lorsque les forces militaires israéliennes ont mené un raid dans la ville occupée de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, déclenchant des affrontements armés entre les combattants de la résistance et les troupes du régime. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa, citant des sources médicales de l'hôpital chirurgical Rafidia de Naplus, a identifié la victime comme étant Amjad Arif al-Jas, 48 ans. Le dernier décès porte à 6 le nombre de Palestiniens tués à la suite de l'incursion militaire israélienne à grande échelle à Jenin. L'un des morts palestiniens était un enfant. Les forces israéliennes ont également abattu un autre jeune Palestinien lundi soir à Bethléem, en Cisjordanie. Selon les médias palestiniens, Zakaria Mohamed Zakaria al-Zaoul, 20 ans, a été grièvement blessé après qu'une balle réelle des forces israéliennes l'a touché à la tête lors d'un raid lundi soir sur le village de Houssan, situé à l'ouest de Bethléem. Le chef du conseil du village a déclaré que le jeune Palestinien avait été touché après que les forces du régime ont attaqué le village, tirant des balles réelles ainsi que des gaz lacrymogènes et des bombes assourdissantes. Après avoir été blessé par une balle à la tête, Zakaria a été transporté à l'hôpital où il a succombé à ses blessures. Deux autres jeunes hommes avaient été blessés par des balles des forces israéliennes lors du raid, selon les médias palestiniens. L'un d'eux a été touché au cou et l'autre au ventre, tandis qu'un troisième jeune a été arrêté, dont l'identité n'a pas encore été révélée. Selon le vice-premier ministre russe, l'accord de libre-échange entre l'Iran et l'UE sera finalisé d'ici la fin de l'année 2023. Le vice-premier ministre russe, Alexei Avarchuk, a déclaré que l'Iran et l'Union économique eurasienne, UE, dirigée par la Russie, seraient censés signer un accord de zone de libre-échange d'ici la fin de l'année. Dans une interview accordée à l'agence de presse russe TASS lundi 19 juin, Avarchuk a fait état du progrès dans les pourparlers entre l'Iran et l'UE, qui inclut également l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan, affirmant qu'ils en étaient à leur phase finale. Nous espérons vivement qu'un tel accord pourra être signé d'ici la fin de l'année, selon le responsable russe. L'accord remplacerait et élargirait un accord intérimaire qui prévoit déjà une réduction des droits de douane sur des centaines de catégories de marchandises. La Russie a cherché à approfondir ses liens économiques et commerciaux avec l'Iran depuis février 2022, date à laquelle elle a été soumise à un régime inclusif de sanctions occidentales en raison de la guerre en Ukraine. Une nouvelle mésaventure a suscité des inquiétudes quant à la coopération militaire française en Afrique. L'armée française se retrouve une nouvelle fois dans une situation délicate, rappelant les déboires précédemment vécus au Mali et au Burkina. Un contingent militaire français en mission au Tchad a été stoppé et désarmé par les forces tchadiennes aux abords de la base militaire d'Adré, selon un rapport de la presse tchadienne. Les images de ces militaires contraints de sortir de leur véhicule et d'attendre pendant que des vérifications étaient effectuées ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant l'émoi en France et dans le monde. Les responsables de la base militaire d'Adré n'avaient pas été informés de cette mission française, selon la presse qui cite des sources tchadiennes. Les militaires français se dirigeaient vraisemblablement vers la frontière soudanaise afin de soutenir l'armée tchadienne en conflit avec les forces du général Mohamed Hamdan Daglo. Cette situation a suscité des interrogations et a rappelé les déboires militaires français en Afrique de l'Ouest. L'incident survient en effet après le retrait des derniers soldats français du Mali en août 2022, où environ 3000 militaires restent toujours déployés dans les principaux pays de la bande sahélo-saharienne. Alors, où la présence et l'intervention militaire française en Afrique sont déjà largement débattues, cet incident ne fait que renforcer les interrogations sur la pertinence et l'efficacité de ces interventions. Récemment, des voix se sont élevées contre cette présence, une idée qui a trouvé écho du côté de la jeunesse tchadienne, comme l'expliquait récemment à Sputnik Abdoulaye Nabaloum, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, CAMPAO. Selon ce dernier, à l'instar des gouvernements maliens et burkinabés qui ont souhaité et obtenu le départ de l'armée française, la jeunesse de plusieurs autres pays fait pression sur les gouvernements pour se débarrasser de l'impérialisme français. Aujourd'hui, le cas du Sénégal, où il y a des manifestations, est un exemple. Le cas du Niger, où effectivement la jeunesse réclame de jour en jour, de plus en plus, le départ des soldats français. C'est également au niveau du Tchad, où la jeunesse réclame de plus en plus le départ des bases militaires françaises, a-t-il souligné. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans quelques instants, je vais vous présenter le commentaire politique. La dédollarisation prend de l'ampleur en Afrique. Un système de paiement panafricain qui permettrait aux nations africaines de commercer entre elles en utilisant leurs propres devises a pris de l'ampleur. La Banque africaine d'import-export, également connue sous le nom d'Afreximbank, s'attend à ce que 15 à 20 pays aient rejoint le système panafricain de paiement et de règlement d'ici la fin de l'année, a déclaré le gouverneur d'Afreximbank, Bénédicte Orama, lors d'une interview avant les réunions annuelles à Accra, la capitale du Ghana, qui se tiendra le 21 juin, a fait savoir la chaîne de télévision Bloomberg. La plateforme a commencé ses opérations commerciales avec 9 pays inscrits jusqu'à présent, a-t-il annoncé. Le nouveau système, connu sous le nom de BAPS, utilise actuellement les taux de change du dollar, a déclaré Omrama. Notons que la banque d'Afreximbank finance le système de BAPS. Nous travaillons avec les banques centrales pour développer un mécanisme de taux de change qui permet aux 42 monnaies africaines d'être convertibles entre elles, a-t-il précisé. La grande majorité du commerce intra-régional de l'Afrique se fait par le biais de conversion en dollars. Des initiatives telles que le BAPS et l'accord de libre-échange dans le monde visent à stimuler le commerce intérieur en réduisant les obstacles, y compris le besoin d'intermédiaires tels que le dollar américain. Selon Bloomberg, ce n'est pas seulement l'Afrique qui cherche à mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du dollar américain. Il y a eu des poussées de dédollarisation sur les marchés émergents, y compris les efforts de l'Inde afin d'utiliser sa monnaie nationale, roupie, pour le commerce international. Dans ce droit fil, il est à noter que la Malaisie a entamé des pourparlers avec la Chine pour créer un fonds monétaire asiatique dans le but de se dissocier du dollar. Ceci intervient tandis que le Brésil et l'Argentine ont envisagé de créer une monnaie commune baptisée SUR afin de faciliter le commerce régional et de réduire leur dépendance à l'égard du dollar américain.